C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, premiers attentats suicides à N'Djamena au Tchad, le président nigérian Buhari veut renforcer la lutte contre Boko Haram, l'Afrique du Sud tensée pour avoir laissé Omar el-Béchir rentrer au Soudan, des poules pour lutter contre la pauvreté au Burkina Faso et enfin, rubrique santé, l'épidémie de méningite est maîtrisée au Niger. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus, restez avec nous. Deux attentats suicides ont eu lieu quasi simultanément lundi matin à N'Djamena, la capitale du Tchad. Ils ont visé les locaux du commissariat central de la ville et l'école de police. Le bilan est lourd, plus d'une trentaine de morts et 3 jours de deuil national ont été décidés. Les citoyens tchadiens condamnent cet acte et demandent au gouvernement de redoubler de vigilance, comme l'a constaté notre correspondant André Kodmat Djingar.
Je suis abasourdi et indigné en même temps que des actes comme ça se produisent encore au XXIe siècle. C'est bien dommage que nos systèmes de sécurité laissent entrevoir des brèches pour que les terroristes puissent en profiter. C'est un acte à condamner et ça interpelle également le gouvernement à renforcer les dispositifs de sécurité parce que un marché public ou encore un bus de transport commun pourrait se comprendre aisément, mais dire que ça se passe dans des centres de formation des policiers et même à la direction générale de la police, c'est bien dommage. On connaît leur mode d'opération, ces terroristes. On dit souvent aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc ils ont planifié cela. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher aux Tchadiens de soutenir les autres frères qui sont dans la même situation. Parce que nous avons toujours été combatifs et on le restera.
Vraiment, c'est un acte déplorable. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles affligées. Et ce que je demanderai au gouvernement, doubler d'efforts pour sécuriser la population. Ce n'est pas une surprise. Tout est déjà préparé. Aujourd'hui, c'est le tour du commissariat. Et demain, peut-être que ça sera dans des écoles ou bien dans les marchés. Et ça va être catastrophe.
J'adresse comme ça mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Je me sens vraiment en danger actuellement là où je suis. Il est grand temps que la police et les autres forces renforcent la sécurité parce que à chaque fois, on assiste à certaines fouilles en pleine circulation, mais cela n'est pas suffisant. Il va falloir commander des appareils performants pour pouvoir sécuriser la ville. Sinon, on sera vraiment frappé encore à nouveau par d'autres attentats. Ça, c'est la négligence également de nos forces de l'ordre. Je ne peux pas imaginer qu'à l'entrée du commissariat ou bien au sein de l'école de police, un tel acte se produise. Il n'y a pas de mesure pour pouvoir contrôler ceux qui entrent au marché, par exemple. Il va falloir vraiment étudier un autre système de sécurité pour protéger la population.
Et le président Idriss Déby a prévenu, le Tchad ne pliera jamais devant un chantage terroriste. Ce sont ses propres mots. Le président Muhammadu Buhari a déclaré qu'il voulait se rendre au Cameroun pour renforcer les efforts régionaux contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Le chef de l'État nigérian avait réservé son premier voyage à l'étranger pour le Tchad et le Niger. Il avait par ailleurs reçu ses homologues tchadiens, nigériens et béninois au sommet du 11 juin à Abuja, une rencontre à laquelle le président camerounais Paul Biya était absent. Au sujet de la visite projetée par M. Buhari au Cameroun, Timothée Donangmaï a joint le professeur Manassé Aboya-Ndong de l'université de Douala.
C'est une nouvelle qui a été favorablement accueillie ici au Cameroun, dans une ville comme Douala, où les gens ont appris à mi-journée cette attaque arrogante de Boko Haram en pleine capitale tchadienne. L'annonce de la visite de Mouhamadou Bouhari au Cameroun est très favorablement accueillie comme une volonté manifeste du président nigérien de poursuivre la coopération régionale sur le plan militaire pour mutualiser les efforts de lutte contre la secte islamiste Boko Haram.
Le Cameroun et le Nigeria ont eu des relations assez compliquées, même face au phénomène Boko Haram, qu'en est-il?
C'est clair qu'on a semblé observer un refroidissement dans les relations entre le Cameroun et le Nigeria. Et notamment, les gens n'ont pas apprécié le fait que le président camerounais ait été absent à l'investiture du président Bouhari le mois dernier. Mais quelques jours après cette investiture, le président camerounais a félicité son homologue nigérian à l'issue de l'élection de son compatriote à la tête de la BAD, ce qui indiquait malgré tout qu'il y avait un ballet diplomatique qui se déroulait loin des regards indiscrets, ce qui expliquait et justifiait expressément que le Cameroun et le Nigeria n'ont aucun intérêt à désarticuler les convergences qui doivent guider l'évolution de ces deux pays frontaliers.
Les deux pays ont eu par le passé des différends frontaliers qui ont été tranchés par la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui subsiste de ces contentieux?
Vous savez qu'à l'époque du déclenchement de la guerre Bakassi dont vous faites allusion, c'est le président Bouhari qui était au pouvoir et les gens avaient peur qu'à l'issue de sa réélection, il pourrait remettre en cause les acquis de la sortie de guerre qui avait été amorcée à l'arrêt et puis les accords de Green Tree. Mais je pense que c'est un nouveau Bouhari qui est à la tête du Nigeria, qui n'entend pas revenir sur le passé et qui entend poursuivre la consolidation et la pacification des rapports entre les deux pays. Et vous savez très bien que l'un des artisans de ces accords était Olusegun Obasanjo, qui était l'une des personnalités qui a posé sa caution pour que Bouhari revienne au pouvoir. Tout le monde est serein dans la perspective de ne plus revenir dans le passé, mais de poursuivre des convergences vers la consolidation des liens pacifiques entre les deux pays.
Le professeur Manassé Aboya Ndong de l'Université de Douala au Cameroun. Concert de condamnation après le retour à Khartoum du président Omar Hassan El-Béchir. Ce dernier a pu quitter le sommet de l'Union africaine de Johannesburg en dépit d'une décision judiciaire le sommant de ne pas quitter l'Afrique du Sud. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chef de l'État soudanais devait demeurer sur place jusqu'à ce que la justice détermine s'il devrait être arrêté ou pas en rapport avec son inculpation par la Cour pénale internationale de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit du Darfour en 2003. Au lieu de cela, il a repris son vol pour Khartoum où il s'était crié à sa descente d'avion « Dieu est le plus grand ». Ce n'est pas la première fois que le président soudanais défie l'ACPI en se rendant à l'étranger. Les États-Unis ont déploré le fait que l'Afrique du Sud l'ait laissé regagner son pays. « Nous sommes déçus qu'aucune action n'ait été prise », a déclaré le porte-parole du département d'État. À Genève, le secrétaire général de l'ONU s'est lui aussi exprimé sur ce dossier. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président El-Béchir pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre est une question que je prends très au sérieux. L'autorité de la CPI doit être respectée et sa décision appliquée. Même son de cloche du côté du procureur adjoint de la CPI. Je pense que je peux m'exprimer au nom de la procureure en disant que nous sommes déçus. L'Afrique du Sud est un État parti qui a toujours fermement soutenu la Cour pénale internationale et de notre point de vue, son obligation était claire. Son obligation était d'arrêter le président El-Béchir. Prenant le contre-pied de la vague anti-El-Béchir, l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a appelé le gouvernement sud-africain à défier le mandat d'arrêt contre le chef de l'État soudanais. L'immunité a été accordée à tous les participants au sommet de l'Union africaine, conformément aux normes internationales observées par les pays organisant de telles rencontres, a ajouté l'ANC dans son communiqué. Selon les Nations Unies, le conflit de la région soudanaise du Darfour a fait 300 000 morts, des civils pour la plupart, et plus de 2 millions de déplacés. Le président El-Bashir dirige le Soudan depuis 25 ans. Son pouvoir n'a pas été entamé par des multiples rébellions, mais est affecté par les sanctions internationales et la perte de revenus pétroliers suite à l'indépendance du Soudan du Sud.
VOA Afrique, en direct de Washington. Au Burkina Faso, le Larlé Naba, chef traditionnel et ambassadeur de l'initiative pour la lutte contre la pauvreté du PNUD, a lancé son projet 35-5. De quoi s'agit-il ? Sur environ 100 postulants, le projet a retenu pour sa phase pilote une quarantaine de personnes qui vont bénéficier d'un kit composé de 35 poules, 5 coques, et la construction d'un poulailler à 5 compartiments, attention, suivez-moi bien, avec un coq pour 7 poules. Et selon le promoteur du projet, l'impact économique est certain. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
35 poules contre un coq dans un poulailler, ou modèle 35-5. Rien de spécial, pense-t-on. Seulement voilà, quand le promoteur explique son idée, on voit qu'il y a derrière une vraie manne financière, suivant les implications économiques du 35-5 avec le Larlé Naba Tigré.
La poule pond toujours 12 à 13 œufs tous les 15 jours. Une poule de race locale. Mais près de 4 peuvent ne pas être des poussins, donc j'ai estimé à 9 par poule. 9 multiplié par 7, vous avez 63. Parce qu'il y a 7 poules dans la cage. Les 63 multipliés par 5, ça fait 315. Quand on estime que sur la place du marché, on vend les coquelets ou les coques de 3 mois et demi à 2500 francs, moi j'ai ramené ça à 2000 francs par coque. 2000 francs multiplié par 315, vous avez 630 000. Après le cinquième mois, les 630 000 là, vous pouvez les répéter 3 fois dans l'année. 315 multiplié par 2000, ça fait 630. 630 multiplié par 3, ça fait 1 890 000. Le tout cumulé des dépenses ne dépasseront jamais 600 000 francs dans l'année. Vous avez un résultat net de 1 280 000. Donc avec 1 280 000, vous avez un salaire minimum de 100 000 francs CFA par mois à partir du sixième mois.
Les dividendes économiques sont évidents. Alors, comment en être bénéficiaire ? Est-ce que tout cela s'obtient gratuitement ? Écoutons la réponse de Marcel Guiré. Il est le président du jury qui a retenu les 40 premiers bénéficiaires.
Ah non, c'est des microcrédits qu'on va donner. Dans le dossier, il faut mettre 3 témoins. Les microcrédits serviront à l'achat du kit, les 35 poules et puis les 5 coques, à leurs soins vétérinaires et à leur alimentation. Donc un crédit court terme, juste 450 000 pour les soins vétérinaires, l'alimentation, ça se rembourse en une année. Et l'équipement, ça peut aller sur 2 ans. Comme au bout de 3 mois, 3 mois et demi, on peut sortir les coquelets pour les vendre. Et à la vente, il faut penser déjà à commencer le remboursement du crédit.
Le ministre des Ressources animales, qui a présidé la cérémonie de lancement, assure y apporter le soutien de son département. Écoutons le ministre Jean-Paul Rwamba.
En ce qui concerne mon département, j'exprime notre pleine adhésion au programme et je ne ménagerai aucun effort pour le soutenir. Nous espérons que cette opération touchera dans les mois et les années à venir des milliers de foyers au Burkina.
Ravi de se voir bénéficiaire, Sénémaré prend en son compte le proverbe chinois de l'apprentissage de la pêche du poisson. On écoute Sénémaré.
Pour avoir quelqu'un qui va t'aider à faire comme ça, c'est très rare au Burkina. Si vraiment on tient dur, on ne peut pas ne pas réussir dans ça. Hein, parce qu'il ne faut pas apprendre quelqu'un à manger le poisson. Chaque jour, il faut l'apprendre à pêcher.
Le bénéficiaire Sayuba Bamogo se promet d'être digne de la confiance placée en lui.
Mon souhait, bénéficier aujourd'hui, produire demain et partager ça avec d'autres personnes. C'est un grand rêve et je vois que ça est en train de s'accomplir. Parce que ce projet va me permettre d'augmenter ma production, d'embaucher d'autres personnes et de réduire surtout la pauvreté en milieu rural.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et nous terminons l'émission avec notre rubrique santé. Pour une bonne nouvelle, pour une fois après toutes ces rubriques santé consacrées à Ebola, fin de l'épidémie de méningite au Niger. Selon Médecins Sans Frontières, le nombre total de patients a diminué de 98%. À Niamey, où l'épidémie a été très aiguë, il n'y a plus que 4 admissions par jour contre 279 début mai. J'ai joint le coordinateur médical de l'ONG Médecins Sans Frontières au Niger pour comprendre les raisons de ce succès. Écoutons le docteur Idrissa Compaoré.
C'est vraiment multifactoriel. 3 groupes de raisons. La première raison par rapport à l'abaissement, je citerai la pluie. Après la pluie, on a constaté la baisse très importante des cas, la semaine qui a suivi la pluie. Le deuxième élément, je dirais, c'est un peu la vaccination, parce que la vaccination a quand même ciblé la tranche de la population la plus touchée, c'est-à-dire les 2-14 ans, mais on le reconnaît parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins non plus, sinon on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Donc il y a une part contributive quand même de la vaccination à cette baisse. Et le troisième point, je dirais, c'est la sensibilisation, parce que il y a eu pas mal de messages qui sont passés dans les districts les plus touchés. Donc cette sensibilisation était basée sur la prise en charge gratuite des cas pour que les gens puissent venir rapidement. Et nous, on l'a constaté à Douchi où les délais de consultation étaient autour de 48 heures. Il y a également le message passé par cette sensibilisation qui était le regroupement. C'est-à-dire qu'on disait aux gens d'éviter de se regrouper pour essayer de couper la transmission entre les porteurs et les autres individus, casser un peu la chaîne de transmission. Ensuite, il y a la fermeture quand même des écoles qui va dans le même sens que le regroupement. Ça permet quand même de diminuer la transmission.
Alors, il y a encore des cas, hein, il faut rester vigilant, c'est ça?
Oui, il y a toujours des cas. Donc la vigilance est toujours de mise. Nous sommes toujours sur la surveillance parce que cette année, en termes d'ampleur, c'est la première fois qu'on notifie une épidémie à méningocée au niveau du Niger. Donc, il faut vraiment surveiller et surtout surveiller aussi ceux qui ont eu des séquelles, ceux qui ont eu des complications pendant l'épidémie. Il faut toujours les surveiller.
Idrissa Compaoré, coordinateur médical de l'ONG Médecins Sans Frontières au Niger. Je l'ai joint à Niamey.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Georges-Léonard Sagnot. À la technique, Mireille Dubinsky et Alfredo Santos. Nous nous quittons en musique avec notre découverte de la semaine, le chanteur nigérian Koukou, qui vient de sortir son premier album composé de 11 gospel, ballades et blasphémie. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
What do you do?